Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 2 novembre 2021. On ne va pas se mentir, la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est le meeting de la Fed qui commence aujourd'hui et qui se terminera demain avec l'annonce détaillée de la mise en place du tapering. À partir de mercredi soir, on pourra se taper sur les cuisses en disant que l'on savait que c'est un non-event et que tout était déjà dans les prix et on pourra passer à autre chose. La seule chose qui semble nous motiver et nous faire marcher en avant, c'est les chiffres du trimestre et un peu les crypto-monnaies aussi. Mais le reste, il n'y a pas d'autre terme à employer que « on s'en fout ». On peut vous publier un rapport de 300 pages qui vous explique par A plus B que l'on va se prendre une vague d'inflation dans la figure tellement grosse que la vague de body dans Point Break fera figure de vaguelette. Le marché ne bronchera pas parce que Tesla a signé un nouveau contrat pour des nouvelles batteries ou parce que Microsoft cartonne sur le cloud. La macro est clairement passée au second plan, si ce n'est pas au troisième. De toute façon, je crois qu'actuellement, il n'y a même pas de second plan. Il n'y a que les chiffres du trimestre et puis c'est tout. Rien que cette semaine, il y a 15% de la market cap du S&P 500 qui va publier ses chiffres. Alors, à moins que Powell vienne se présenter en tutu à cheval sur une licorne pour nous annoncer qu'il monte les taux de 2% par mois pendant les 4 prochains mois et qu'il va interdire le trading en crypto-monnaie et fermer Coinbase avec les mêmes blocs en béton que les génies de la police valaisanne ont utilisé à Zermatt, je ne vois pas comment on pourrait détourner l'attention du marché. Alors oui, bien sûr, on parle de la Fed, mais on a le sentiment que dès que l'on saura qu'ils ne vont pas révolutionner le concept de la planche à billets, on pourra retourner à traiter à la tronçonneuse. Je dis traiter à la tronçonneuse parce que les mouvements auxquels on assiste actuellement sont d'une telle violence dans la mise en œuvre des décisions que je ne peux imaginer la chose qu'avec une tronçonneuse. En plus, la tronçonneuse, 2 jours après Halloween, vous avouerez que c'est encore typiquement de saison. Et puis, si vous ne me croyez pas, regardez plutôt les titres du moment, ceux dont on parle dans la presse, et les mouvements qui vont avec. Si l'on reprend un peu la journée d'hier, on se rendra compte que les marchés sont montés parce que l'on attend la Fed et parce que les USA et les Européens ont réussi à se mettre d'accord sur leurs histoires de tarifs douaniers. On ne sait pas encore combien les Français vont taxer aux Américains pour les sous-marins qu'ils n'ont pas vendus, mais ce que l'on sait, c'est que les discussions se sont bien passées et que ça va mieux du côté trédoire USA-Europe. Dans la foulée, Biden s'est excusé du fait que Trump se soit retiré du traité climatique et ça a l'air de faire plaisir à tout le monde à la COP26. En même temps, quand tu vois que Biden dormait lors du discours d'ouverture, tu peux quand même te demander s'il pensait sincèrement ce qu'il disait ou s'il aura oublié le temps qu'il remonte dans Air Force One. Et puis, on notera aussi que la COP26, c'est un peu comme moi quand je prends des bonnes résolutions et que j'arrête de manger. Ça dure 3 semaines. Il faut quand même savoir que depuis les accords de Paris, il y a 6 ans, le seul pays qui a respecté le pacte, c'est le Bhoutan. Alors, leurs promesses à la con, ils peuvent se les fourrer. Enfin, ils peuvent se les fourrer. Chose est-il que ça fait plaisir au marché et que les Européens ne soient plus fâchés que les Américains au niveau du commerce. Et puis, si ça se trouve, Biden a promis à Macron de lui acheter des Rafales pour les utiliser comme avion cible à Top Gun. Ces effusions de joie entre les Européens et les Américains ont donc permis au marché de monter et d'aller chercher les plus hauts de tous les temps aux USA. Encore une fois, et pendant ce temps-là, l'Europe n'est plus qu'à quelques encablures des sommets. Mais pendant que les marchés montaient, c'est ailleurs que les choses vraiment très cool se passaient. Hier, il y a 3 titres qu'il fallait retenir. Tout d'abord, ON Semiconductor. Comme son nom l'indique, ils font des semi-conducteurs. Et hier, ils ont publié des chiffres qui ont tout simplement pulvérisé les attentes du marché. Et en plus, ils ont annoncé qu'ils voyaient une forte demande de la part du secteur automobile. Et sur ce point-là, très précisément, les experts ont sauté de joie. C'est vrai qu'on l'avait pas vu venir. C'est vrai que ça fait seulement 9 mois que toutes les marques de voitures se plaignent de ne pas avoir assez de semi-conducteurs pour produire, que certaines marques reviennent au bon vieux compteur à aiguille et hésitent à mettre un GPS et la clim, pendant que d'autres ferment carrément des chaînes de montage pour éviter de revenir dans le passé. Ceci étant, on n'aurait jamais pu soupçonner un instant que la demande était forte du côté des semi-conducteurs. C'est fou quand même ce marché. On explose de joie parce qu'on vient nous dire ce que l'on savait déjà. Non, parce qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient résolu le problème. Ils ont juste dit que la demande était très forte. Chez Apple aussi, la demande est forte, mais si tu peux pas livrer les produits parce qu'il faut bricoler que des puces de 1912 et que l'iPhone 14 pèsera 32 kilos et sera équipé d'une poignée pour le porter comme une valise, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais bon, quoi qu'il en soit, ON Semiconductor a publié des super chiffres et explosait de 14%. Oui, parce que de nos jours, c'est comme ça que ça marche. Quand c'est bon, et on fait pas dans le détail. On ne fait donc pas dans le détail quand c'est pourri aussi. Hier, Chegg a publié que le business a annoncé pardon que le business de l'éducation était en baisse. Forcément, depuis que tout le monde veut devenir influenceur ou blogueur spécialiste des plus belles plages du monde, ça pousse moins les gens à s'éduquer ou à devenir intelligents. Les chiffres du trimestre étaient donc mauvais. Le titre s'est fait purement massacrer after close. Il était déjà en baisse de 45% depuis les plus hauts de 2021 en février et aujourd'hui, il devrait ouvrir en baisse de 30%. Tout le secteur de l'éducation était en forte hausse hier. Je m'attends donc à un immense bain de sang généralisé aujourd'hui. Zillow, c'est la boîte qui a révolutionné l'immobilier. La première agence immobilière sur le web qui a été plus loin cette année en annonçant qu'ils allaient directement racheter les maisons aux vendeurs, les rénover et les revendre plus cher. C'est le nouveau truc à la mode dans le sillage des versions US de Valérie Damido ou de Stéphane Plaza. Sauf qu'en octobre, on a appris qu'ils arrêtaient finalement d'acheter des objets immobiliers. Problème de capacité soi-disant, mais également problème de main-d'œuvre manquante pour tout faire en même temps. Et puis hier, ça s'est gâté, on apprenait que Zillow était en train d'écouler plus de 7000 maisons à prix cassé. Alors que la concurrence semble tenir le coup, on commence à se demander si Zillow a des problèmes ou si le marché est en train de ralentir et tout ça avant que la Fed ait commencé à monter les taux. Là aussi, on a sorti la tronçonneuse et le titre s'est pris 10% dans les dents au pire de la journée. Dans les mouvements à la tronçonneuse, il faudrait aussi parler de Harley Davidson qui se déclare heureux de la détente au niveau de la trade war et selon eux, ils devraient largement en bénéficier. Alors attention, hein, ils n'ont pas dit qu'ils allaient baisser des prix, mais simplement que leur marge allait augmenter, sans compter que le fait qu'Harley est resté bloqué sur les cours de change euro-dollar d'il y a 22 ans en arrière. Le titre prenait donc 9% hier. Comme vous le voyez, la confiance est à son top, mais lorsque les nouvelles sont mauvaises, on ne fait pas de quartier. Et même quand les nouvelles sont bonnes, d'ailleurs, les décisions sont tranchées, violentes et radicales, ce qui entraîne des mouvements très violents sur certains titres. Heureusement, pour le moment, cette forme de folie d'investissement ne contamine pas les indices ni les grosses capitalisations. Après tout, Tesla a signé un contrat pour des nouvelles batteries et prenait seulement 8,5% hier. Une réaction tout en délicatesse qui ramène la fortune d'Elon Musk à plus de 300 milliards, ce qui représente 3 fois celle de Warren Buffett et l'équivalent du PIB de l'Afrique du Sud, le pays d'origine d'Elon Musk. Sa fortune est également plus grosse que la valeur cumulée de toutes les autres marques de voitures dans le monde. Mais non, on ne marche pas sur la tête et non, ça n'est pas débile du tout. Ce matin, l'Asie se pose des questions à 48 heures du discours de Powell et on sent que l'appétit au risque se réduit et qu'on verra bien demain. Tokyo est en légère baisse après son euphorie d'hier et la Chine est en baisse de 1,4% pendant qu'Hong Kong remonte légèrement. Pour le reste, on notera que le baril est reparti au-dessus des 84$ et que l'or... Que l'or, il fait rien et on se demande pourquoi on en parle encore. Côté crypto, alors que Biden demande aux autorités de penser à régulariser les stablecoins, le Bitcoin est toujours dans son range latéral, l'Ether continue son bonhomme de chemin haussier et le Polkadot a cassé à la hausse cette nuit et de façon spectaculaire. Et puis, si l'on avait encore un doute sur le fait que l'on continuait dans l'hyperspéculation et sur les trucs débiles qui montent comme des avions de chasse, regardez le Dogecoin. Le Dogecoin est une crypto-monnaie qui a pour but de devenir la première monnaie interplanétaire. Elle a été nommée après Elon Musk et rien qu'en octobre, elle a pris 4000%. Donc tu paries sur un truc qui est censé devenir la première monnaie interplanétaire. Alors moi, je me demande si je vais pas inventer la première crypto-monnaie invisible. Vous me donnez de l'argent et vous attendez qu'il réapparaisse multiplié par 2000 dès que le premier homme aura marché sur le soleil. Parfois, je lis des citations qui parlent des cons et je trouve de plus en plus de similitudes avec ce que l'on vit en ce moment. Dans les nouvelles du jour, les génies qui nous gouvernent depuis la COP26 ont annoncé un pacte pour arrêter la déforestation d'ici 2030. Alors, on ne sait pas trop comment ils vont faire, ni comment ils pourront éventuellement faire pour faire respecter la loi, mais on s'en fout parce que ce ne sont que des promesses et que c'est tous des politiciens, leur job étant principalement de ne pas les tenir, les promesses. Sans compter que d'ici 2030, Macron ne sera plus président et Biden sera mort. Autrement, on retiendra que Rivian, qui fait des SUV électriques qui viennent en IPO et qui viennent en IPO tout soudain autour de Thanksgiving, espère valoriser la société autour de 60 milliards, ce qui fait qu'elle vaudra plus que Kia ou Nissan, même si les revenus sont proches de que dalle. De nos jours, il suffit de lancer une boîte de voitures électriques pour devenir milliardaire. Peut-être que l'idée est de faire une IPO de voitures électriques via une tokenisation du capital. Et dans 3 semaines, Rivian vaut 3 fois la market cap de Tesla. Je dis ça, je dis rien. Et puis, autrement, toujours au chapitre des voitures électriques, NIO a vu ses livraisons de voitures neuves chuter de 65% pour le trimestre. La faute aux chaînes d'approvisionnement. On se demande toujours comment Tesla fait pour faire mieux que tout le monde, tout en ayant les mêmes problèmes que les autres. Et ne venez pas me dire que c'est parce qu'elles sont mieux que les autres. À propos de Tesla, Musk a annoncé que le contrat de 4,2 milliards avec Hertz n'était toujours pas signé. Mais c'est pas grave, on a déjà ajouté 300 milliards de capitalisation boursière pour anticiper la bonne nouvelle. Ne serait-il point hilarant que l'on apprenne que le deal a capoté et que à la place, Hertz signe avec Renault pour acheter des Zoé. Et côté chiffres économiques, nous aurons les PMI manufacturiers un peu partout en Europe et l'inflation en Suisse. Pour les publications du trimestre, on retiendra Pfizer, Conoco, Ferrari, Activision et Amgen. Autrement, on attend la Fed. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain au même endroit et à la même heure.